Tous les jeudis à 17h30, la librairie Caractère Social Club à Mont-de-Marsan explore pour vous l'actualité du livre. Rencontre avec les auteurs et les lecteurs, romans, essais, recueils de nouvelles ou de poèmes, sélectionnés et présentés par vos critiques, Aurore Pourny, Anthony Clément et Romain Baxer. Tous les jeudis à 17h30, mettez-vous à la page avec Radio MDM.
Nos rendez-vous littéraires du jeudi 1er jour d'avril, journée internationale de la blague et anniversaire, je vous jure que c'est vrai, de Vincent Bolloré.
Écoutez, joyeux anniversaire Vincenzo, voilà, on va parler de toi indirectement hein, avec cet ouvrage chroniqué aujourd'hui finalement.
Peut-être un cadeau à lui offrir.
Peut-être, voilà, n'hésitez pas, un petit cadeau pour la peau poche donc, de Vincent Bolloré, car c'est un livre de poche hein, que je vais chroniquer aujourd'hui, mais un livre éminemment critique, hein, de socio-critique. Critique économique, hein, si on peut dire de la critique économique, avant de rentrer...
Comment ça va, déjà, avant de rentrer,
écoutez, très bien, avant de rentrer plus avant dans l'ouvrage, je voulais dire un petit mot...
Comment va la petite santé ?
Très bien, la petite santé va bien, et la santé de l'édition également, en ce moment, vous voyez, où les commerces de librairies sont essentiels, comme quoi on peut devenir essentiel d'un jour à l'autre. C'est la période actuelle...
Il faut bientôt des écoles pour devenir essentiel.
Peut-être. Diplôme d'essentialitude. Ce qui est essentiel, là, surtout, c'est la maison d'édition dont je vais vous parler. Oui. La maison d'édition, c'est Raison d'agir. C'est une maison d'édition illustre, hein, comme elle a été montée, entre autres, par Pierre Bourdieu en 1996, hein, ça date déjà, avec le premier titre publié de cette maison d'édition, Sur la télévision.
Qu'est-ce qu'il raconte dedans, si tu
Alors, ben là, c'est vraiment... Je viens de voir à l'instant, vous voyez que c'est la 42e édition de ce petit livre sur la télévision de Pierre Bourdieu. C'est vraiment un livre qu'on peut conseiller d'ailleurs, là pour le coup je vous parle de deux livres à la fois, ce livre on peut le proposer à un très très large public, il vous fait la démonstration implacable que la télévision n'est vraiment pas le lieu, disons, du débat intellectuel. Voilà, c'est un peu dur comme constat, mais c'est sûr que quand on ne laisse pas s'exprimer un intervenant plus de 2-3 minutes d'affilée, sinon on a peur du tunnel, c'est vrai que là, c'est un peu dur d'élaborer une pensée complexe et de la présenter, vous voyez, au public.
Si je puis me permettre, la radio a emprunté un petit peu ses dérives, parce que si on écoute les grands médias de radiophoniques, dans des interviews, par exemple, qui doivent durer 20 secondes, pas une seconde de plus.
Complètement, et d'ailleurs, ce fameux mot de tunnel, on l'utilise aussi, il me semble, à la radio, hein, c'est-à-dire si on se parler trop longtemps l'intervenant, tunnel.
J'ai resté dedans.
On est resté dans le tunnel, mais oui, je pense qu'on les aime bien à MDM Radio, les tunnels, et tant mieux, parce que ce sont ces...
Ça va trancher, chérie. Je passe dans un tunnel. Ouais, je comprends mieux l'expression.
Donc voilà, ce premier ouvrage en 1996 inaugure donc la maison d'édition qui vient de publier le livre donc, que je vais tenter de vous chroniquer aujourd'hui, qui s'intitule « La finance autoritaire », sous-titré « Vers la fin du néolibéralisme », donc aux éditions Raison d'agir, écrit donc à quatre mains hein, par Marlène Binquet et Théo Bourgeron. Je suis aussi également obligé de vous dire un petit mot sur ces deux auteurs, hein, beaucoup d'introduction avant de rentrer dans le vif du sujet. Voilà, Marlène Binquet hein, est une sociologue hein, chargée de recherche au CNRS. Elle a beaucoup travaillé sur la finance et la grande distribution. Elle a notamment publié « Encaisser », qui était un livre, le résultat de 3 ans d'enquête en immersion dans la grande distribution. Et Théo Bourgeron est lui aussi sociologue, c'est un très jeune sociologue qui vient de soutenir sa thèse en 2019, donc c'est un post-doctorant. Lui, il est spécialiste des fonds de capital investissement, les fameux hedge funds.
Funds. C'est pas pareil. Hein.
Allez-y, vous connaissez mon accent pitoyable.
Oui.
Bon, hedge
les funds.
Voilà, c'est-à-dire les fonds qui achètent, qui restructurent et qui vendent des entreprises non cotées en bourse afin de générer un retour financier pour les investisseurs. Voilà, donc Théo Bourgeron est un jeune post-doctorant qui a travaillé autour de la figure contemporaine de l'actionnaire. Il a fait sa thèse notamment à Édimbourg et c'est notamment lui qui a proposé un axe dans cet ouvrage, La finance autoritaire vers la fin du néolibéralisme, en lien avec les 3 événements contemporains, vous voyez, le Brexit, l'élection de Trump et l'élection de Bolsonaro. Alors voilà, ce qui est intéressant, c'est que ces 3 événements généralement, on a tendance à les prendre comme ça, comme l'expression d'un vote du peuple. Hein. Je ne sais pas si c'est aussi votre sentiment, mais moi, c'est un sentiment qui surnageait beaucoup à l'occasion de ces trois événements. Voilà, le peuple mécontent contre les élites, contre l'Europe. Bon, voilà. Alors que la thèse centrale de ce livre, est, c'est tout l'opposé. C'est au contraire, ce ne sont pas du tout le résultat du mécontentement populaire. C'est au contraire les intérêts de la finance qui ont parlé hein, lors de ces trois événements. Pourquoi et comment ? Ben, tout simplement, déjà, ils ont suivi l'argent. C'est-à-dire que quand on remonte pour le Brexit, hein, quand on remonte le financement pour la campagne qui allait déterminer du livre du Remain, hein, donc rester ou partir, ben, tout simplement, ils se sont aperçus que 2/3 des fonds viennent tout simplement du secteur financier pour l'option de partir. Donc, en fait, les fonds les plus importants viennent vraiment de cette finance. Vous voyez, alors par contre, moins de la moitié des fonds viennent de l'industrie. Hein. L'industrie n'a pas forcément intérêt à tout déréguler. Alors que la haute finance, ils veulent déréguler de façon très importante. Pourquoi cette haute finance ? Avant de rentrer un peu plus avant dans cette finance, il faut distinguer la première financiarisation et la deuxième financiarisation. La première financiarisation, c'est celle qu'on connaît tous, hein, c'est la banque, les assurances, les investisseurs institutionnels. Ça, on va dire, c'est la première financiarisation classique.
Les cravateux.
Voilà. Mais la deuxième financiarisation, qui est moins connue hein, tout de même aujourd'hui, c'est ces fameux donc, capitaux risques, hein, capitaux investissement, hedge funds. Voilà, c'est cette gestion alternative en fait, qui donc rachète des entreprises et essaye de les dégraisser au maximum pour augmenter la rentabilité.
Excusez-moi, c'est votre portable ou c'est le mien ? Parce que j'ai l'impression que quelqu'un
alors, veut du bien. Ah, oui, il y a un portable dans la pièce.
Ah oui, c'est moi.
Ah, ben voilà. Alors là, si...
Ah, je suis désolé.
Ah, mais écoutez, je
vous... Il y a un petit peu de... C'est pas que si sont de cloche comme ça qui vient émailler cette chronique purement financière.
Voilà, donc, pour nos auditeurs et auditrices qui suivent toujours, hein, de Marlène Binquet et Théo Bourgeron, se sont donc intéressés à cette seconde financiarisation, hein, c'est-à-dire ces capitaux investissements qui cherchent tout simplement, en fait, à déréguler au maximum. Hein. C'est un peu la vieille antienne hein, du néolibéralisme, c'est-à-dire on dérégule, mais là, on arrive vraiment à une
finance j'ai rien dit, hein.
Autoritaire. Nous dérégulons, oui, je dérégule, ouais, tu dérégules, ouais. Il dérégule.
Mais comment voulez-vous que cette planète tourne bien.
Ben voilà, ça c'est leur premier, vous voyez, c'est leur premier axe dans ce livre de la finance autoritaire, c'est-à-dire montrer comment cette seconde financiarisation a intérêt à donc supprimer toute réglementation. Hein. La réglementation européenne, pour eux, elle est bien trop contraignante. Hein. Donc sortons de l'Europe pour en fait jouer notre carte hein, face à tous les autres pays. C'est vraiment une idéologie libertarienne hein, qui est montrée ici de la part de ces financiers, une doctrine économique donc qui vise à, voilà, à limiter hein, toute forme d'intervention étatique, en dehors bien sûr tout de même de la garantie de la propriété privée, contre le collectivisme et l'étatisme.
Mais alors comment ils s'y prennent ? Les Britanniques, enfin les gens, les Britanniques, les pensent que c'est une poussée populiste et qu'en aucune façon, ce sont les financiers qui tiennent les rênes.
Bah, tout simplement, en fait, dans les arguments développés. C'est-à-dire que l'argent peut très bien venir des financiers multimillionnaires, mais eux, les arguments qu'ils mettent en avant, c'est bien évidemment l'intérêt pour le petit peuple de sortir, vous voyez, du carcan de Bruxelles.
Ça passe par quoi ? Par les médias ?
Ça passe par notamment, bien sûr, hein, par l'énorme campagne de communication qu'ils ont mis en place, et surtout de leur alliance politique avec l'extrême droite. Notamment. Ah ! Ça, c'est très étonnant. On voit que le fameux Nigel Farage, avec mon bel accent, qui est tout de même le président de UKIP, hein, le parti d'extrême droite anglais, eh bien lui, tout simplement, il a proposé Richard Tice en président du Brexit Party. Et Richard Tice est un gérant donc, de fonds d'investissement. Pareil, le ministre des Relations avec le Parlement, c'est M. Jacob Rees-Mogg, hein, qui est également... un banquier d'affaires. Donc en fait, cette idéologie libertarienne dont je vous parlais juste avant, eh bien, elle est étrangement, ou plutôt logiquement en fait, en lien donc avec les identitaires. Hein, vous voyez, parce que l'extrême droite, les identitaires, pareil, hein, ils veulent fermer toutes les frontières, sortir de tous les accords économiques et internationaux pour jouer leur carte de l'identité. Donc c'est là où ça devient plus inquiétant et on comprend mieux, vous voyez, le premier titre, la finance autoritaire.
Ouais. Est-ce que je vous mets dans la merde si je vous dis, on parlait de Vincent Bolloré, Bolloré propriétaire de CNews, sur lesquels officie Éric Zemmour qu'on ne présente plus le soir, et sur une tranche très populiste aussi, Pascal Praud le matin, Est-ce qu'on est un peu dans cet esprit-là de...
Ah, tout à fait, là, vous venez de... mais vous venez de faire, je pense, le lien évident, hein, c'est-à-dire que...
On prépare les esprits contre... à un gouvernement plus autoritaire ou apparenté d'extrême droite.
Mais complètement, c'est-à-dire que pour sortir un peu des visions du commun, des visions collaboratives, il suffit en effet hein, de jouer la carte du semi-complot à la suite de Zemmour, des questions liées à l'identité, à l'immigration, vous voyez, pour se refermer encore un peu plus. Et voilà, c'est ça le paradoxe en fait qui est montré dans cet ouvrage de Marlène Binquet, de Théon Bourgeron. Voilà, on pensait que le néolibéralisme avait tendance à s'étaler, à s'étendre, en fait, dans une espèce de mondialisation comme ça, sans frontières. Et en fait, pas du tout. Hein. Cette finance autoritaire est en train de se replier sur elle-même, à l'image hein, des identitaires. Et donc, joue avec hein, ces identitaires. Hein. Donc, en effet, le lien que vous venez de faire, il me semble complètement rentré dans l'analyse donc, de Marlène Binquet, de Théon Bourgeron, dans ce petit livre fort instructif. Hein, fort instructif et aussi, voilà... qui fait froid dans le dos.
Oui, ça fait froid dans le dos
parce que traditionnellement, vous voyez, en France notamment, le Front National n'a jamais été spécialement contre les puissances de l'argent. Hein. Ils ont toujours montré leurs liens et ben là, ils accentuent en fait, cette bourgeoisie financière hein, qui n'a peut-être plus besoin en fait de la démocratie. Vous voyez, ils ont besoin maintenant de forces de l'ordre.
Bah, hein. Toutes les forces autoritaires sont arrivées avec la poussée des industriels, y compris en Europe,
notamment dans les années 30. Ouais. Voilà, donc un livre très instructif. Je précise cette collection. Je voulais citer hein, pour vous montrer que c'est malgré le sujet assez ardu, assez qui apparaît comme ça, assez pointu. En fait, cette collection vraiment respecte. Vous voyez le vœu hein, de Pierre Bourdieu qui voulait, je cite, à la création de cette maison d'édition, que ces livres soient à la fois très chics et très radicaux. Il faut que ça soit sobre, modeste, que l'on puisse mettre ce livre dans la poche, que cela ne coûte pas cher. Voilà, ce sont des petits livres de poche, de critique sociale ou économique, vraiment accessibles au grand public. Vous lisez ça plutôt le matin avec un bon café, vous voyez, mais pas besoin d'avoir fait Sciences Po HEC pour lire ces livres. Donc, plongez-vous dans ce texte passionnant, La finance autoritaire vers la fin du néolibéralisme aux éditions Raison d'agir.
Réfléchissez en lisant et inversement. Merci beaucoup Romain Baxter.
Avec plaisir.
Vos conseils avisés. Oui, c'est pas mal avec mon Bolloré là.
C'est très très bon.
Hein.
L'actualité du livre sur MDM, c'est tous les jeudis à 17h30. Retrouvez votre sélection littéraire et le programme des animations à la librairie Caractère Social Club sur la page Facebook de Radio MDM.